J'avais failli dire bonjour. Les forces de l'habitude. Donc voilà, on se retrouve en le dernier culte de l'année. Et en préparant ce message dont je vous donnerai le thème bientôt, on a déjà vu, hein, c'est Jésus en gloire qui est une espérance. Parce qu'en préparant ce message, j'ai fait un bref résumé des faits marquants de 2023, c'est-à-dire qui ont fait la une des journaux. Et on va tout de suite voir quel genre de une les journaux aiment faire. Alors, pour nous, on a vu la réforme des retraites, hein, qui a secoué le pays. On a vu aussi les tremblements de terre en Turquie, en Syrie. Il y a eu d'autres choses comme le couronnement. Donc, il y a eu la mort de la reine avec le couronnement qui a eu lieu. Des incendies au Canada qui ont engendré de la pollution à New York. Ça, c'était en juin. La rébellion du groupe militaire Wagner par rapport à la Russie, ça c'était encore en juin ou en juillet. En France, on a eu aussi des émeutes qui ont marqué le pays à partir du 27 juin. Mais en vrac, on avait aussi disparition d'un jeune enfant, tremblement de terre au Maroc, l'attaque terroriste du Hamas en Israël le 7 octobre, mort d'un professeur, mort d'un enfant, tentative de réguler le climat. Voilà les dernières nouvelles qu'il y a eu par rapport à cette année. Et on voit toute cette année a été jalonnée de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Mais malheureusement, ce sont souvent les mauvaises nouvelles qui ont fait le pas sur ces grands titres qui nous ont accompagnés au cours de cette année. Et cette année, du coup, il y a beaucoup de faits qui nous ont marqués, peut-être personnellement. Et je vais savoir qu'est-ce qui nous a marqués, nous. Est-ce qu'on a été à chaque fois touché par ces choses, par toutes ces choses qu'il y a eu en France ou dans le monde? Est-ce qu'on a vu tout ça à chaque fois, ou est-ce qu'on s'est dit c'est un fait divers? Et on remarque en fait que le monde tourne autour de ce genre de, je veux dire encore aujourd'hui là, quand j'ai relu un peu hier et je voyais, voilà, ce qu'on a essayé, des tentatives de réguler, des tentatives de faire autre chose. Et s'il y a quelque chose qui nous touche, c'est peut-être ça. Comment va le monde pour nous? Comment va le monde pour vous? Qu'est-ce qui vous a marqué cette année? Mais aussi, c'est le moment de faire quoi? Comme c'est notre dernier jour aujourd'hui, c'est le moment de prendre des bonnes résolutions. Les bonnes résolutions, c'est ce que les adultes prennent et ne tiennent pas. En tout début d'année. Et vous, les enfants, vous avez des bonnes résolutions que vous voulez prendre? Non? Au moins, c'est tranquille. Je m'attends pas de changement, du coup. Non, pas être plus gentil, ranger ma chambre, débarrasser la table. Non. Ben c'est les bonnes résolutions, ça part pas d'un mauvais sentiment, on essaye de mieux faire. On se dit, si à notre niveau on fait mieux, le monde ira mieux. Et on a vu que les enfants ne sont pas super chauds à changer le monde en commençant par eux. Ils n'ont pas forcément envie de commencer. Et nous, on se dit, quand j'ai préparé ça, je me dis, nous en croyant, en tant que chrétiens, quelles sont nos aspirations humaines? Qu'est-ce qu'on veut faire pour le monde? On sait que ce monde est réservé au jugement, on sait que ce monde va, par son rejet de Christ, à un jugement, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on n'est pas parfois découragé? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir des frères, des sœurs, la lecture de la parole pour nous encourager? Pour nous encourager à ne pas oublier quelle est notre espérance. Et c'est ce que je veux partager en cette fin d'après-midi, c'est la glorieuse espérance que nous avons par un passage. Un passage qui se situe dans Marc. Voyons, on continue notre cheminement dans Marc. Alors, on fait un petit saut et je pense qu'on reviendra en arrière. Parce que là, c'est Marc 9. C'est les 13 premiers versets, ce qu'on appelle la transfiguration. Et dans les Bibles qu'on a au fond, c'est la page 650-651, Marc 9, 1 à 13. Le passage où Jésus est transfiguré, d'où la transfiguration. Est-ce que les enfants, vous savez ce que ça veut dire, la transfiguration? Tu sais ce que ça veut dire? Changer de figure, oui. Dans quel sens? Oui, d'être bien, oui, changer en mieux, c'est ce qu'on espère. Et ce mot, je dois dire que je le connaissais, mais pas forcément facile à expliquer. On le connaît, ceux qui sont connus dans des grandis dans des familles chrétiennes, on connaît le passage de la transfiguration, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors la définition, c'est changer d'aspect de quelque chose, sa nature, en lui donnant un caractère éclatant, magnifique. Un aspect, c'est mon aspect. Tu vois, moi j'ai l'air pas éclatant et pas magnifique, mais imagine. Si je suis transfiguré, ben j'apparais éclatant et magnifique. C'est tout brillant. C'est bizarre. Hein. Donc le mot, c'est une transfiguration, et là c'est la transfiguration de Jésus. Nous avons lire dans ce passage que Jésus paraît en gloire. Et d'où le titre « Jésus en gloire, l'espérance du chrétien ». Jésus, il va être éclatant et magnifique, révélant une gloire cachée. Et donc du coup, je vais laisser mes lecteurs de la Bible, parce qu'on m'a donné des lecteurs de la Bible, lire ce passage donc de Marc 1 à 13. Voilà, donc on a un passage hein, qui s'intègre. Alors, je vais déjà contextualiser là où on est dans l'évangile de Marc. Vous savez que Marc, c'est celui qui va nous proposer un avant et un après. C'est ce qu'on a vu dans toute notre suite de textes. Marc présente Jésus comme celui qui a l'autorité. On l'a vu, celui qui est pur au point de purifier l'impur. On a vu celui qui se place en enseignant absolu. Celui qui change tout. Celui qui fait irruption dans la vie et dans la vie de l'homme et dans son histoire pour tout changer. Et là, on arrive au point charnière de Marc où, à partir de là, l'animosité, donc les gens qui sont ennemis de Jésus, vont grandir. Et ça va pousser Jésus jusqu'au procès. On va finir par le crucifier. Parce que tout le monde va devenir son ennemi, enfin beaucoup de gens vont devenir son ennemi. Et là, il y a un point charnière dans Marc où Jésus, finalement, par ce court épisode de la transfiguration, prouve quelque part à ses disciples, par sa gloire, eh ben, il prouve qui il est. Il atteste quelque part. Il atteste quelque part qu'il s'est déclaré Messie, il s'est déclaré qu'il venait sauver, on l'a vu, hein. Il sauve son peuple des démons, des maladies, de la faim, de sa perdition. C'est lui qui enseigne. Qui est Jésus? Et en fait, Marc, au travers ce petit passage, nous donne une réponse, un élément de réponse en disant « Jésus, c'est le Fils bien-aimé ». La transfiguration se place dans ce contexte, là où Jésus va vers l'accomplissement, il monte à Jérusalem, il va aller vers sa mort, il va aller accomplir son œuvre, mais en même temps, il laisse une espérance. Et en fait, c'est à partir de là où on va avoir deux chemins, on va avoir ceux qui le suivent, qui acceptent, et ceux qui vont le rejeter. Et donc la transfiguration, c'est les premiers versets, donc le 1 à 8, Le 1, on y reviendra à la fin. Bon, c'est plutôt 2 à 8. Jésus, il prend ses trois disciples, hein, vous voyez, et il monte sur une haute montagne. Donc, il prend qui comme disciples pour ceux qui ont lu? Pour ceux qui ont écouté? Alors, ça, c'est pas les disciples, c'est après. Il prend trois disciples, c'est lesquels? Les trois disciples, à qui il prend? Pierre, Jacques et Jean. Oui, Pierre, Jacques et Jean. Effectivement, il prend Pierre, Jacques et Jean. Donc là, normalement, il y avait Pierre, Jacques et Jean, c'était pour savoir si vous aviez suivi. Donc, ils sont quatre en tout. Et Jésus, qu'est-ce qui se passe pour Jésus? Ils sont sur la montagne, et qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez du texte? Qu'est-ce qui se passe? Jésus, il est? Il est crucifié, pas tout de suite, là il est? Transfiguré. On sent, il y a un grand enfant qui suit, merci. Oui, Jésus est transfiguré. Et on a vu la transfiguration, c'est changer d'apparence glorieusement. C'est-à-dire, on devient glorieux et magnifique. Et le texte nous souligne, alors moi j'ai la version, il fut transfiguré devant eux, ça c'est le verset 2, ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Donc ça c'est une vieille version de la version second, mais j'ai lu dans la version Summer, c'est que une telle blancheur ne pouvait exister sur la terre. Grosso modo, c'est-à-dire qu'il n'existait pas une blancheur humainement atteignable. La blancheur qui apparaît ici est une blancheur de la gloire du ciel, et c'est une blancheur qui est impossible à reproduire. Même si vous prenez les super lessives que vous voyez en publicité, non, vous pouvez pas. Vous pouvez pas faire blanc comme ça. Et en fait, c'est un aperçu de la gloire de Christ qu'il avait auprès du Père. C'est quelque chose d'incroyable que Marc nous laisse, et que les autres évangiles nous laissent à leur manière, parce que Matthieu et Luc relatent c'est aussi cette transfiguration, parce que c'est là où c'est important. C'est là où on voit que Jésus apparaît tel, ou presque tel qu'il était, et tel qu'il sera. Et là, on a deux témoins qui arrivent. Alors, il y a des personnes avec lui. Et là, tu peux dire qui c'est. C'était qui? Les personnes qui sont avec lui, qui apparaissent aussi? Élie et Moïse. Il y a Élie et Moïse qui sont avec lui et qui s'entretiennent. Alors, Marc ne nous le dit pas, mais Luc nous le lit, les textes parallèles. Dans Luc, il nous dit qu'il parle de ce qu'il allait accomplir. Voilà. Jésus, il est transfiguré, les disciples se reposent, visiblement ils dormaient ou ils étaient pas loin, en tout cas ils ont pas vu tout de suite. et il est transfiguré, il est changé en gloire, et autour de lui apparaît Moïse et Élie. Et il parle donc de ce qu'il va faire, et les exégèses, donc les gens qui étudient la Bible, nous disent, il parle de l'Exode, parce que Jésus est aussi un nouveau Moïse. C'est lui qui va faire un nouvel Exode. Vous vous souvenez de ce qu'il a fait Moïse? Les enfants, vous vous souvenez? Il a fait quoi? Il a ouvert la mer. Oui. Il a sorti son peuple d'Égypte. C'est vrai? Il a fait quoi aussi? Il a oublié. Il a sorti son peuple d'Égypte, oui? Sur le rocher. Ouais. Oui, il y a de l'eau qui est sortie sur le rocher. Oui, Moïse, il a fait tout ça. Il a sorti son peuple d'Égypte, il lui a donné à boire. Oui, il a fait tout ça, c'était tout au début. Oui, tout ça, c'est grâce à Dieu. Et Jésus, du coup, lui, c'est ce qu'il va faire. Il va sortir tout un peuple, pas seulement Israël, il va sortir tous ceux qui croiront en lui du péché, qui est pire que l'Égypte encore. Il va créer un nouveau peuple au travers son propre corps, à la croix. Il va ouvrir, il va déchirer le voile. Vous vous souvenez, quand il meurt, il y a le voile du temple qui se déchire? Bon, ça, c'est pas le sujet, mais voilà. En fait, il se place comme un nouveau Moïse. C'est pour ça que Moïse est là. Et il lit, c'est parce que c'est le prophète, c'est tout ce qu'est la loi, c'est tout ce qu'est le prophète. Et il parle de choses. Et il parle de cet exode, il parle de son ministère, de l'œuvre que Jésus va accomplir de manière absolue. Moïse, c'était pas absolu. Élie, c'était pas absolu. C'est-à-dire, c'était pas fini. Il manquait quelque chose. Jésus, là, c'est celui qui accomplit tout. Et vous savez quel est le point commun entre Moïse et Élie aussi? Élie, vous savez peut-être plus. Élie, il a été emmené par un char de feu. Donc, il est pas mort. Et Moïse, on sait pas où il a été enterré. Donc, il est mort, mais on sait pas où. Et Élie, il est emmené par un char de feu. Donc, c'est aussi des choses mystérieuses. C'est pour ça qu'on les retrouve aussi, partage aussi quelque chose de mystérieux ensemble. Et qu'est-ce qui se passe pour les disciples? Ben, les disciples, on a vu que ils ont suivi Jésus. On suppose, je sais pas s'ils somnolent, mais en tout cas, il est transfiguré devant eux et ils ont peur. Et comment t'aurais réagi, toi? T'aurais eu peur aussi? Oui? Parce qu'ils suivent Jésus depuis un petit moment maintenant, ils le connaissent, ils ont vu tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, et il emmène trois avec lui. Et d'un coup, il resplendit. Et non seulement il resplendit, il y a Moïse et Élie qui sont à ses côtés. Et ils doivent les reconnaître par rapport à ce qu'ils parlent. Parce que moi, je me suis toujours questionné pourquoi ils n'avaient pas d'étiquette marquée Moïse ou marquée Élie. Comment ça se fait qu'ils les reconnaissent? Donc, ils sont suffisamment proches et ils parlent suffisamment de choses pour qu'ils puissent comprendre de qui il s'agit. Et qu'est-ce qu'il dit Pierre? Pierre, il dit, ben tiens, c'est bien que s'il soit là, on va pouvoir camper, on va mettre une petite tente. Mais la Bible nous dit, car ils ne savaient que dire, ça c'est au verset 6, car l'effroi les avait saisis. Alors l'effroi, c'est la peur. Oui, parce qu'ils ont vu Jésus dans la gloire. Et voir Jésus dans la gloire, alors qu'il était une gloire qui était cachée jusqu'à présent, c'est quelque chose qui fait peur. Même à ses proches, même à ceux qui le connaissaient bien. Et c'est pour ça qu'on aurait sûrement réagi comme ça. On aurait sûrement eu peur, nous aussi. On aurait dit, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que c'est de ça? Et à l'époque, il n'y avait pas les lunettes de soleil, donc il ne pouvait même pas regarder la blancheur. Il devait être comme ça, il ne pouvait pas voir. Ça devait être tellement éclatant. Et du coup, il se pose la question, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Est-ce que Jésus, c'est un personnage historique? Ou est-ce que Jésus est celui qui est vraiment le Fils de Dieu, comme la transfiguration l'atteste. On l'a vu, hein, une voix sortie de la nuée. Et la nuée, c'est la présence de Dieu. Et une voix, elle sort, elle dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. On a un sceau de Dieu lui-même sur la vérité. Alors, qui est Jésus pour toi? Ça, c'est à toi d'y répondre. Mais j'espère que tu penses que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que c'est là toute la différence. Est-ce que tu vas rester dans la peur de la gloire ou tu vas l'accepter? Et après, il y a tout un questionnement quand Jésus redescend. Ah, ça, c'est les versets 9 à 13. Lors de la descente de la montagne, qu'est-ce qu'il va dire Jésus? Vous vous souvenez? Il dit quoi à ses disciples? Personne ne se souvient? Vous vous souvenez pas de ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il leur dit? Je demande à mon grand, hein, sinon je demande à mon grand enfant qui a suivi. Il leur a dit de de garder le silence. Ils viennent de vivre un truc incroyable, vous imaginez, hein, on a envie de le dire à tout le monde. Quand il vous arrive un truc cool, vous avez envie de le dire à tout le monde. Si, toi tu le dis tout le temps. Vous n'avez pas envie de le dire quand vous arrivez un truc bien? Vous n'avez pas envie de le dire, ouais, il m'est arrivé un truc super à l'école, au flambeau, peu importe. Mais là, Jésus leur dit, ouais, ce que vous avez vu là, vous devez ne pas le dire jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que je et que je ressuscite. Et oui, il leur dit, non, ça, vous gardez le silence jusqu'à ce que je sois ressuscité des morts. Et là, c'est là où on voit que les disciples, ils comprennent pas toujours tout, et c'est normal, parce que ils ont pas toute la finalité, et nous, on a toute la Bible, on est 2000 ans après, mais eux, ils sont en train de vivre ce moment. Jésus leur dit, le dites pas, jusqu'à ce que je sois ressuscité des morts. Ah, ok. Qu'est-ce que c'est que ressusciter des morts? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire? Ils ont pas encore compris, là. C'est pour ça, ils retinrent cette parole, et se demandant entre eux, donc ils interrogent pas Jésus, hein, qu'est-ce que c'était de cette histoire de ressusciter des morts? Là, on sait pas trop, là. Ils nous demandent des trucs, mais bon, on va laisser, on verra bien à la fin. Mais il y a quand même quelqu'un qui va poser une question. Ils interrogent, hein. Ils interrogent. Et vous vous souvenez de la question de laquelle ils posent? Voilà. Pourquoi les spécialistes de la loi? Alors, ils interrogent Jésus à propos de la loi. Ils disent, mais dans la loi, dans notre loi à nous, il y a Élie qui doit venir avant. Il y a Élie qui doit venir avant le Messie. Si ce qu'on a compris de la transfiguration, si la gloire de Jésus, c'est qu'il est vraiment le Messie, ben, Élie, il est où? Il est où, Élie? Et vous savez qui c'était, Élie? Qui avait la figure d'Élie? Vous vous souvenez? Jean-Baptiste, exactement. Jean-Baptiste était celui qui portait le ministère d'Élie. C'est comme ça que lui-même, on l'a vu tout au début, c'est lui-même qui se définit comme ça. Il se dit, il est la voix qui crie au désert. Donc, Jésus, lui, il leur dit, Élie est venu. Élie est venu. Et ils l'ont traité comme ils devaient le traiter, malheureusement. Et vous savez comment ils ont traité Jean-Baptiste? Non? Oui? Voilà. Alors d'abord, ils l'ont arrêté, hein, et après, ils lui ont coupé la tête. Voilà comment ils traitaient. Et les hommes ne l'ont pas reçu. Et Jésus dit, eh ben voilà, ils n'ont pas reçu Élie. Ils vont pas me recevoir, moi aussi. Alors du coup, pourquoi on a dit tout ça? Parce qu'on dit, c'est la gloire de Dieu, mais tout ça, c'est pas glorieux. Il y a quelqu'un qui est mort, il y a quelqu'un qui a été décapité, mais si, ce que Jésus, il dit, jusqu'à ce que je sois ressuscité. Et ressuscité, ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il reste pas mort. Il est ressuscité. Et pourquoi tout cela, c'est une espérance? Parce que si nous croyons que Jésus est ce qu'il a dit, est ce que la voix a dit de lui, c'est-à-dire son fils bien-aimé, qu'on doit écouter, alors on a encore une espérance. À l'époque de la transfiguration, c'est quoi finalement? C'est un encouragement. C'est-à-dire, c'est un espèce d'encouragement à ses disciples à dire, celui que vous suivez, moi, Jésus, je suis vraiment celui que je dis. Parce que des messies, on avait eu avant Jésus, des gens qui s'étaient dit messies, et il y en aura un peu après, des gens qui s'est proclamé messie en disant, ouais, je vais libérer le peuple. Mais Jésus, lui, il l'a dit, mais il l'était vraiment. Et s'il l'est vraiment, il dit, voilà, je vous donne une espérance. Quand les temps seront sombres, quand je vais mourir sur la croix, quand je vais être arrêté, quand Pierre va me renier, tout ça, vous avez cette espérance parce que vous avez vu la gloire que j'ai auprès du Père. Vous avez vu la gloire qui est la mienne. Vous avez vu la gloire de Jésus telle qu'il est. Une gloire tellement glorieuse qu'on peut même pas la regarder, que le blanc qu'il était revêtu n'existe pas sur terre. Et ça, c'est une réelle espérance. Quand tout paraît sombre, et on l'a vu tout à l'heure, avec tout ce qui s'est passé en 2023, mais on pourrait prendre en 2024, ça sera peut-être pas forcément mieux. Quand tout est parfois trop sombre pour nous, on se dit, mais à quoi bon? Eh ben, on a ces clins d'œil qui nous disent, il y a la gloire de Christ. C'est un encouragement à poursuivre. Si c'est celui qui nous a sauvés du péché par sa mort et sa résurrection, eh ben, il nous encourage à tenir bon. C'est cela l'espérance de 2023 et c'est l'espérance de 2024. Le monde n'est pas encore fini, et tant qu'il n'est pas fini, eh ben, c'est un monde qui va être très difficile à vivre, parce qu'on va rejeter de toujours, de plus en plus, la Bible et ses valeurs. Et on le voit, vous êtes encore petit, mais vous le voyez peut-être déjà de temps en temps, qu'autour de vous, il y a peu de gens qui croient en Dieu. Peu de gens ont besoin de la croix. Ils se disent, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin de ce Jésus qui a été transfiguré. On n'en a pas besoin. Nous, on vit notre vie. Mais si ce Jésus, cet homme qui a marché parmi les hommes, est le Sauveur et Seigneur, si cette gloire de la transfiguration est une gloire et une puissance non humaine, eh bien, prouve l'identité qu'il est le seul Sauveur et qu'il est la seule espérance. Alors, si vous croyez ça, ça va être plus facile à vivre. Je dis pas que sera toujours facile. Je dis pas qu'on sera pas des fois un peu désespéré. Mais ça sera plus facile à vivre. On entend quoi? Bon, je sais pas.
En même temps, une voix venant du ciel se fit entendre.
Voici mon fils.
Ça, c'était la voix qui est sortie de la nuée, qui nous encourage à l'écouter. Et pourquoi on doit l'écouter? Parce qu'il accomplit ce qu'il a dit. Vous avez rappelé au verset 1, j'en ai pas encore parlé, mais au verset 1, il dit encore, c'est Jésus qui parle, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Eh bien, Pierre, Jacques et Jean ont vu une partie du royaume de Dieu venir avec puissance au travers de cette transfiguration. Alors c'était très court, c'était qu'un moment, mais c'était quelque chose déjà de préfiguration qui allait venir. C'est déjà une première réponse à une espérance glorieuse, l'espérance d'un salut. Et ces gens-là, ces trois disciples qui étaient là, ont vu le royaume de Dieu venir avec puissance en Jésus-Christ, comme il le promet. Plus tard par la suite, Jésus a accompli la promesse et il accomplira la promesse qu'il a faite à ses disciples qui le suivent, qu'il va revenir. Et nous aussi, il a fait cette promesse à l'Église. Et on peut lire dans Apocalypse, alors Apocalypse c'est la fin du livre, c'est la fin de la Bible, tout à la fin. Dans Apocalypse 22, versets 6 et 7, l'ange me dit « Ces paroles sont vraies et entièrement dignes de foi. Dieu, le Seigneur qui a inspiré les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. » Vous avez vu ce que dit Jésus? Je viens bientôt. Alors dans ce bientôt, on y met ce qu'on veut, mais c'est pour ça qu'on a ces espérances. En attendant, soyons prêts à mettre notre vie entre ses mains, même quand vous êtes petits et petites. Soyons prêts à ne pas compter que sur nos bonnes résolutions qui tiendront pas le coup sans Christ. Mais Jésus a promis qu'il était avec nous jusqu'à la fin du monde, au travers le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il dit à la fin, juste avant de remonter auprès du Père. Il va leur dire, voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est dans Matthieu 28, 20. Il leur donne du courage. Et c'est au travers toutes ces espérances et ces promesses que nous pouvons avoir confiance en l'avenir, non pas en l'avenir des hommes, ni pas en l'avenir de la terre, on sait qu'elle va au jugement, mais quand le monde nous paraît difficile, gardons à l'esprit que nous avons notre espérance, car Jésus revient en gloire. La gloire qu'il avait, comme à la transfiguration, cette gloire incroyable, et ça c'est la vérité. Est-ce que vous voulez le croire, les enfants, ou pas? Après c'est vous, hein, qui choisissez, moi je vous force pas. Est-ce que vous voulez le croire, ou vous attachez au monde qui va pas bien? La gloire de Christ lors de la transfiguration est une preuve de son identité, une réalité qui règne et qui revient. Le croyons-nous? Le croyez-vous? Le crois-tu? Ça, c'est à toi de répondre.